Voltaire, le dîner du comte de Boulainvilliers, première partie, avant-dîner. L'abbé Couet.
Quoi, monsieur le comte, vous croyez la philosophie aussi utile au genre humain que la religion apostolique, catholique et romaine?
Le comte de Boulainvilliers. La philosophie étend son empire sur tout l'univers, et votre Église ne domine que sur une partie de l'Europe. Encore y a-t-elle bien des ennemis. Mais vous devez m'avouer que la philosophie est plus salutaire mille fois que votre religion, telle qu'elle est pratiquée depuis longtemps.
Mais vous m'étonnez, qu'entendez-vous donc par philosophie?
J'entends l'amour éclairé de la sagesse, soutenu par l'amour de l'être éternel, rémunérateur de la vertu et vengeur de crimes.
Eh bien, n'est-ce pas là ce que notre religion annonce?
Oh, si c'est là ce que vous annoncez, nous sommes d'accord. Je suis bon catholique et vous êtes bon philosophe. N'allons donc pas plus loin ni l'un ni l'autre. Ne déshonorons notre philosophie religieuse et sainte ni par des sophismes et des absurdités qui outragent la raison, ni par la cupidité effrénée des honneurs et des richesses qui corrompent toutes les vertus. N'écoutons que les vérités et la modération de la philosophie. Alors, cette philosophie adoptera la religion pour sa fille.
Avec votre permission, ce discours sent un peu le fagot.
Mais tant que vous ne cesserez de nous conter des fagots et de nous servir de fagots allumés au lieu de raison, vous n'aurez pour partisans que des hypocrites et des imbéciles. L'opinion d'un seul sage l'emporte sans doute sur les présages des fripons et sur l'asservissement de mille idiots. Vous m'avez demandé ce que j'entends par philosophie. Eh bien, je vous demande à mon tour ce que vous entendez par religion.
Moi, il me faudrait bien du temps pour vous expliquer tous nos dogmes.
Mais c'est déjà une grande présomption contre vous. Il vous faut de gros livres, et à moi, il ne faut que quatre mots. Serre Dieu et sois juste.
Jamais notre religion n'a dit le contraire.
Je voudrais ne point trouver dans vos livres des idées contraires. Oh, ces paroles cruelles. Contrains-les d'entrée dont on abuse avec tant de barbarie. Et celle-ci. Je suis venu apporter le glaive et non la paix. Et celle-là encore. Que celui qui n'écoute pas l'Église soit regardé comme un païen ou comme un receveur des derniers publics. Et sans maxime pareille effraie le sens commun et l'humanité. N'y a-t-il rien de plus dur et de plus odieux que cet autre discours? Je leur parle en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point et qu'en écoutant ils n'entendent point. Est-ce ainsi que s'explique la sagesse et la bonté éternelle? Le Dieu de tout l'univers, qui se fait homme pour éclairer et pour favoriser tous les hommes, a-t-il pu dire « Je n'ai été envoyé qu'aux troupeaux d'Israël, c'est-à-dire à un petit pays de 30 lieues tout au plus. Est-il possible que ce Dieu à qui l'on fait payer la capitation ait dit que ses disciples ne devaient non rien payer, et que les rois ne reçoivent des impôts que des étrangers, et que les enfants sont exempts ?
L'abbé. Mais ces discours qui scandalisent sont expliqués par des passages tout différents.
Juste ciel, mais qu'est-ce qu'un Dieu qui a besoin de commentaires et à qui l'on fait dire perpétuellement le pour et le contre? Qu'est-ce qu'un législateur qui n'a rien écrit? Qu'est-ce que 4 livres divins dont la date est inconnue et dont les auteurs, si peu avérés, se contredisent à chaque page?
Mais tout cela se concilie, vous dis-je. Mais vous m'avouerez, du moins, que vous êtes très content du discours sur la montagne.
Oui, on prétend que Jésus a dit qu'on volera ceux qui appellent leurs frères racas, comme vos théologiens font tous les jours. Il dit qu'il est venu pour accomplir la loi de Moïse, que vous avez en horreur. Il demande avec quoi on salera si le sel s'évanouit. Il dit que bienheureux sont les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Oh, je sais encore qu'on lui fait dire qu'il faut que le blé pourrisse et meure en terre pour germer, que le royaume des cieux est un grain de moutarde, que c'est de l'argent mis à usure, qu'il ne faut pas donner à dîner à ses parents quand ils sont riches. Peut-être cette expression avait-elle un sens respectable dans la langue où l'on dit qu'elles furent prononcées. J'adopte tout ce qui peut inspirer la vertu, mais ayez la bonté de me dire ce que vous pensez d'un autre passage que voici. C'est Dieu qui m'a formé. Dieu est partout et dans moi. Oserais-je le souiller par des actions criminelles et basses, par des paroles impures, par d'infâmes désirs? Puissais-je à mes derniers moments dire à Dieu « Ô mon maître, ô mon père, tu as voulu que je souffrisse, j'ai souffert avec résignation. Tu as voulu que je fusse pauvre, j'ai embrassé la pauvreté. Tu m'as mis dans la bassesse et je n'ai point voulu la grandeur. Tu veux que je meure, je t'adore en mourant. Je sors de ce magnifique spectacle en te rendant grâce de m'y avoir admis pour me faire contempler l'ordre admirable avec lequel tu régis l'univers. » Mais cela est admirable. Dans quel père de l'Église avez-vous trouvé ce morceau divin? Est-ce dans saint Cyprien, dans saint Grégoire de Nazianze ou dans saint Cyril? Non, non, ce sont les paroles d'un esclave païen nommé Épictète, et l'empereur Marc Aurèle n'a jamais pensé autrement que cet esclave. Et je me souviens en effet d'avoir lu dans ma jeunesse des préceptes de morale dans des auteurs païens qui me firent une grande impression. Je vous avouerai même que les lois de Zaleucus de Carondas, les conseils de Confucius, les commandements moraux de Zoroastre, les maximes de Pythagore, me parurent dictés par la sagesse pour le bonheur du genre humain. Il me semblait que Dieu avait honoré ces grands hommes d'une lumière plus pure que celle des hommes ordinaires, comme il donna plus d'harmonie à Virgile, plus d'éloquence à Cicéron, et plus de sagacité à Archimède qu'à leurs contemporains. J'étais frappé de ces grandes leçons de vertu que l'Antiquité nous a laissées. Mais enfin, tous ces gens-là ne connaissaient pas la théologie. Ils ne savaient pas quelle est la différence entre un chérubin et un séraphin, entre la grâce efficace à laquelle on ne peut résister et la grâce suffisante qui ne suffit pas. Ils ignoraient que Dieu était mort et qu'ayant été crucifié pour tous, il n'avait pourtant été crucifié que pour quelques-uns. Ah, monsieur le comte, si les Scipions, les Cicérons, les Catons, les Épictètes, les Antonins avaient su que le Père a engendré le Fils et qu'il ne l'a pas fait, que l'Esprit n'a été ni engendré ni fait, mais qu'il procède par spiration tantôt du Père et tantôt du Fils, que le Fils a tout ce qui appartient au Père, mais qu'il n'a pas la paternité. Si, dis-je, les anciens, nos maîtres en tout, avaient pu connaître sans vérité de cette clarté, de cette force, enfin s'ils avaient été théologiens, quels avantages n'auraient-ils pas procurés aux hommes? La consubstantiabilité, surtout, monsieur le comte, la transsubstantiation, sont de si belles choses. Plutôt Dieu que Scipion, Cicéron et Marc Aurèle eussent approfondi ces vérités. Ils auraient pu être grands vicaires de Monseigneur l'archevêque ou syndic de la Sorbonne. Ça, dites-moi, l'abbé, en conscience, entre nous et devant Dieu, si vous pensez que les âmes de ces grands hommes soient à la broche, éternellement rôties par les diables en attendant qu'elles aient trouvé leur corps qui sera éternellement rôti avec elles, cela pour avoir pu être syndic de Sorbonne et grand vicaire de Monseigneur l'archevêque. Vous m'embarrassez beaucoup, car hors de l'Église, point de salut. Nul ne doit plaire au ciel que nous et nos amis. Quiconque n'écoute pas l'Église, qu'il soit comme un païen ou comme un fermier général. Scipion et Marc Aurèle n'ont point écouté l'Église. Ils n'ont point reçu le Concile de Trente. Leurs âmes spirituelles seront rôties à jamais. Et quand leurs corps dispersés dans les quatre éléments seront retrouvés, ils seront rôties à jamais aussi avec leurs âmes. Rien n'est plus clair comme rien n'est plus juste. Cela est positif. D'un autre côté, il est bien dur de brûler éternellement Socrate, Aristide, Pythagore, Épictète, les Antonins, enfin, tous ceux dont la vie a été pure et exemplaire, et d'accorder la béatitude éternelle à l'âme et au corps de François Ravaillac, qui mourut en bon chrétien, bien confessé, et muni d'une grâce efficace ou suffisante. Ouais, je suis un peu embarrassé dans cette affaire, car enfin je suis juge de tous les hommes. Leur bonheur ou leur malheur dépend de moi, et j'aurai quelque répugnance à sauver Ravaillac et à damner Scipion. Mais il y a une chose qui me console, c'est que nous autres théologiens, nous pouvons tirer des enfers qui nous voulons. Nous lisons dans les actes de Sainte Théocle, grande théologienne, disciple de Saint Paul, lequel se déguisa en homme pour le suivre, qu'elle délivra de l'enfer son ami Faconie, qui avait eu le malheur de mourir païenne. Le grand Saint Jean Damascène rapporte que le grand Macaire, le même qui obtint de Dieu la mort d'Arius par ses ardentes prières, interrogea un jour dans un cimetière le crâne d'un païen sur son salut. Le crâne lui répondit que les prières des théologiens soulageaient infiniment les damnés. Enfin, nous savons de science certaine que le grand Saint Grégoire, pape, tira de l'enfer l'âme de l'empereur Trajan. Mais ce sont là de beaux exemples de la miséricorde de Dieu. Oh, vous êtes un goguenard! Mais tirez donc de l'enfer par vos saintes prières Henri IV, qui mourut sans sacrement comme un païen, et menez-le dans le ciel avec Ravaillac, le bien confessé. Mais mon embarras est de savoir comment ils vivront ensemble et quelle mine ils se feront. Arrive la comtesse de Boulainvilliers. Ah, le dîner se refroidit. Ah, voilà M. Fréret qui arrive. Mettons-nous à table. Vous tirerez après de l'enfer qui vous voudrez.